Les voix du livre. Une émission proposée par Éline Séjot de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez memorialiste.fr, avec aujourd'hui la participation de Cécile Charbonnier, libraire de la FNAC à Nevers. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Cécile. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas dire bonjour à Éline puisqu'elle n'est pas avec nous. elle le regrette beaucoup et elle présente toutes ses excuses à nos auditeurs. Et elle est très déçue parce que nous accueillons aujourd'hui Dominique Sierra, créatrice et responsable des éditions La Tête à l'envers depuis 2012 déjà. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission qui commence, comme d'habitude, par les coups de cœur des libraires. Alors, des coups de cœur, en effet, parce que vous saviez que lire était bon pour la santé. On le savait, mais maintenant, c'est prouvé. Une étude parue récemment dans la revue Neurologie montre que... Si, c'est vrai, je vous assure, que lire 30 minutes par jour réduit de 20% le déclin des capacités cognitives et mentales.
On n'en doute pas.
Voilà, et maintenant c'est justifié par des statistiques. Alors, Cécile, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui pour garder le cerveau alerte ?
Alors, bonjour. Alors, le grand coup de cœur en ce moment à la FNAC, c'est le dernier livre de Laetitia Colombani. Elle vient de sortir « Les Victorieuses ». Alors, je ne peux pas parler de ce livre sans parler de son premier, La Tresse. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Un beau succès, d'ailleurs, La Tresse.
Un très, très grand succès, oui. D'ailleurs, elle est en train de le réaliser pour le cinéma, en cours d'adaptation au cinéma. Et puis, La Tresse, du coup, en roman pour adultes, a aussi donné lieu à un album pour enfants qui s'appelle Le Voyage de Lalita. Voilà, donc vraiment un grand succès pour tous les âges, toutes les formes d'art. Donc La Tresse, c'était un récit de trois femmes, enfin trois récits de trois femmes différentes qui vivent dans différents pays. Elles se connaissent pas. Donc, pourtant, je vais le dire quand même. C'est un peu un spoiler, parce que j'aime pas du tout dévoiler comment un livre se passe.
Mais là, on peut difficilement faire autrement, je crois.
Voilà.
On vous pardonne.
C'est ça. Voilà. Donc pourtant, il y a un lien qui unit ces trois femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, qui ne se rencontreront jamais. Et donc c'est décrit par l'image d'une tresse. Voilà, ces trois fils qui s'entremêlent et qui créent donc l'histoire.
Oui, une manière assez originale d'ailleurs de les entrelacer.
Tout à fait, oui.
Qu'il y ait trois destins, ça arrive assez souvent, mais cette manière de les entrelacer est originale.
Tout à fait, oui. On a en Inde donc une femme qui s'appelle Smita, qui veut une meilleure condition pour sa fille, donc qui s'appelle Lalita. Après, on a, ça se passe en Sicile, c'est Giulia, qui doit gérer l'atelier de son père après un accident, voilà, qui est arrivé à son père. Et on a au Canada, donc vraiment trois pays différents, au Canada, on a Sarah, qui est une avocate réputée, et puis elle apprend qu'elle est gravement malade. Donc à première vue, vraiment, il n'y a rien qui relie ces femmes, vraiment rien, il n'y a aucun point commun. Et en fait, petit à petit, la tresse se crée au fur et à mesure que le récit se dévoile et puis...
Et on comprend tout, mais on ne dira
voilà,
rien.
Voilà, on ne dira rien de plus. Il faut vraiment le lire, c'est vraiment génial, c'est vraiment un gros coup de cœur donc, de tous nos libraires à la FNAC.
Ah oui, c'était à l'unanimité,
oui.
Tout le monde
sorti,
a été...
Oui. Voilà, on s'attache beaucoup aux personnages, à leur destin, puis on est impressionné donc par leur lutte, la lutte de chacun des personnages.
Oui, parce que c'est des personnages forts. Hein.
Ah oui. C'est vraiment, c'est lié à la condition de la femme, pour améliorer leurs conditions à chacune, donc dans tous ces trois pays. Améliorer leurs conditions, s'en sortir coûte que coûte. Et puis, même si ce livre finalement n'est qu'une fiction, on a envie de le partager. Le partager avec le plus de personnes possible, ça nous apporte vraiment de l'espoir, de la force, du courage, et c'est vraiment magnifique. Faut pas le louper, vraiment.
Ah oui,
vraiment.
Là, je pense que c'est un cri du cœur.
Voilà. Et donc, Laetitia Colombani, donc l'auteur, vient de sortir, là, il y a le 15 mai, un autre livre, dans la même lignée que La Tresse, qui s'appelle Les Victorieuses.
Cette fois-ci, quand même un petit peu différent.
Alors, plus ou moins. Donc, Les Victorieuses, cette fois-ci, le récit se passe en France. Donc, encore une fois, ce sont deux récits différents, cette fois-ci, non pas trois. Deux récits différents, centrés sur deux femmes différentes, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées. Et pour cause, on en a une qui s'appelle Solène. Elle est avocate, une jeune avocate. Voilà, elle fait un burn-out. Une jeune avocate, donc là, des années 2019, hein, qui fait un burn-out, elle tombe en dépression.
C'est très contemporain, parce que c'est une thématique dont on parle beaucoup en ce moment.
C'est tout à fait contemporain, oui, oui. C'est tout à fait dans l'actualité. Et donc, pour sortir de la dépression, elle devient écrivain public au Palais de la Femme à Paris. Voilà, ça commence comme ça.
J'en ai entendu parler.
Voilà, alors j'en reparlerai après. Et donc, la deuxième personne, c'est Blanche, qui a 58 ans. Et elle vit en 1925. Elle est chef de l'armée du salut et elle se bat pour les femmes qui vivent à la rue pour leur offrir une meilleure condition. Donc on est encore, comme dans la Tresse, on est dans le combat pour améliorer les conditions des femmes. Sauf que cette fois-ci, on va pas dans trois pays différents, on reste dans la France parce que finalement, c'est d'actualité.
Ça a beau se passer en 1925, c'est toujours d'actualité, nous sommes d'accord.
En 1925, mais aussi en 2019, quand on a Solène l'avocate, je vais pas en parler davantage parce que ça va être des gros spoilers. mais oui, c'est voilà, il y en a en France aussi des difficultés liées aux femmes, parfois même sous notre nez, des Françaises, mais aussi tous les autres pays, toutes les autres femmes qui viennent des autres pays, qui ont trouvé refuge ici, qui ont sacrifié peut-être leur vie dans leur pays, qui ont sacrifié leur vie peut-être pour leurs enfants, et elles n'arrivent pas à trouver leur place dans notre société. Voilà, donc c'est vraiment d'actualité. Mm-hmm. On ne peut pas faire mieux, je crois. et pour en revenir au scénario, donc il y a le destin de ces deux héroïnes, donc Blanche en 1925, pardon, et Solène en 2019. Donc leur destin, à toutes les deux, vont finalement se rejoindre. C'est plus un ode à la femme, en fait. Une ode à la femme, pardon. À tous les combats qu'elle est capable de gagner, et on retrouve encore cet espoir, la force et le courage qu'on trouvait déjà dans la Tresse. Sauf que là, c'est vraiment en France et on se sent vraiment concerné. Pas qu'on se sente pas concerné quand c'est les autres pays, mais bon, on est français, on aime bien ce qui se passe en France en général.
Les références ont plus d'écho peut-être.
Tout à fait, voilà. Et parce qu'effectivement, donc, ça se passe au Palais de la Femme, en 2019 en tout cas. Et donc, le Palais de la Femme, effectivement, il existe réellement à Paris. Et donc, dans ce livre, Les Victorieuses, on y découvre sa créatrice, que tout le monde a oubliée, c'est dit dans le livre. Et puis, heureusement, on peut compter sur Laetitia Colombani pour la sortir de l'ombre. Et puis, y amener, du coup, son combat au goût du jour, parce que bah, c'est vraiment tout à fait d'actualité.
Oui, on sent que ça vous a touché, hein.
Moi, oui, et ma collègue Sylvie, vous pouvez aller la voir. Hein. Elle a lu les deux aussi, et elle a aimé encore plus que moi. Donc vraiment, vraiment, c'était vraiment un livre qu'il ne faut vraiment pas louper, j'insiste.
Bon, alors, vous savez quoi offrir? Alors, c'est dommage, la fête des mères est déjà passée, mais enfin, c'est pas grave, hein, on peut...
C'était dans la sélection de la fête des mères.
Certainement. Et puis, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir... Enfin, il n'y a pas besoin d'une raison pour offrir un bon livre.
Ah bah non.
On est d'accord. Je crois que, eh bien, écoutez, courez chez votre libraire le plus proche pour acheter Les Victorieuses et l'offrir à quelqu'un que vous aimez.
Moi, je pense que c'est. Peut-être aussi.
Alors, le lire aussi, certainement.
Il faut
le lire.
Même l'acheter en double pour soi et pour la personne à qui l'offrir.
Voilà. C'est encore mieux. Voilà. Je pense que Éline, qui malheureusement, comme je le disais, n'a pas pu venir, sera d'autant plus déçue que elle est elle-même à l'origine du rayon féminisme dans la librairie du Cyprès et qu'elle est très attachée à ces thématiques, donc une petite pensée pour elle. Je pense que elle a certainement lu les deux romans dont vous parlez et elle aurait eu beaucoup à dire sur eux. En tout cas, Laetitia Colombani, oui, on sait qu'on peut lui faire confiance sur ces thématiques.
Oui, on peut y aller.
Ça vous inspire, Dominique, ces lectures?
Oui, tout à fait. Enfin, surtout le second livre. Je
surtout
pense que je vais le lire.
Bon, voilà, vous avez gagné une lectrice.
Voilà. Super.
Donc, des suggestions de lecture, en tout cas, qui font réfléchir et qui nous inspirent. Nous restons dans la thématique des femmes. Dominique, vous avez choisi un morceau de musique un petit peu particulier, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel morceau il s'agit?
Il s'agit d'une poésie de Sappho qui a été mise en musique par Angélique Ionatos, qui est une grande voix de la chanson grecque, exilée à Paris depuis ses 16-17 ans. Elle est maintenant, on peut dire, française, bien que grecque aussi, évidemment, de cœur.
Gréco-française.
Voilà.
Ou franco-grecque.
Et elle porte magnifiquement la poésie, parce que la plupart de ses chansons sont tirées de poèmes, qu'ils soient grecs, français, ou bien ou encore portugais. peut-être d'autres, mais je pense surtout à ceux-là. Et évidemment, essentiellement grec quand même. Et elle chante les grands poètes grecs comme Elitis, Ritsos. Excusez-moi. Elle a d'ailleurs fait une traduction de poèmes de Ritsos, paru chez Chêne.
Alors, on écoute donc Angélique Ionatos qui chante Astéron Panton.
Tous les astres.
Alors c'était donc Angélique Ionatos et Nena Venetsanou, Astéron Panton, sur un poème donc de Sappho de Mytilène. Alors j'avoue que moi c'est une interprétation qui me ramène un petit peu loin en arrière, quand j'avais 19 ans et que j'étais partie en Grèce avec les étudiants de licence de lettres classiques en voyage d'études. C'était le CD qu'on passait en boucle dans le car, donc voilà.
Alors vous l'avez connu bien avant moi, je suis pourtant bien plus âgée, mais moi j'ai entendu une fois, j'étais passionnée par la route de la soie, et puis un jour j'ai vu un CD à la FNAC d'ailleurs, qui s'intitulait La route de la soie, je n'ai fait une chanson de La route de la soie, j'ai pris le CD évidemment, et la seconde chanson m'a absolument émerveillée. Je ne savais pas qui était l'auteur, qui était la chanteuse. Et
c'était un coup de foudre.
Oui, un coup de foudre immédiat. Et je n'ai eu de cesse de savoir qui était cette Angélique Ionatos. Et du coup, j'ai acheté ces disques. Et ensuite, je l'ai suivi de concert en concert comme une fan.
Ah oui, vous êtes une groupie en fait.
Absolument.
Eh bien, on en apprend de belles. Alors, merci pour cette chanson et cette découverte pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et retour dans le présent maintenant avec une très belle actualité du livre ce mois-ci. Et d'abord, je voudrais faire un petit zoom sur la venue à la FNAC d'Anne-Gaëlle Huon. C'était donc le 18 mai. Il faisait un temps tout gris, tout maussade. Et Cécile, vous vous en souvenez, nous avons eu la surprise de voir arriver une jeune femme blonde, tout sourire, avec des fleurs dans les cheveux.
Tout à fait, tout à fait.
Pour lutter contre cette grisaille ambiante.
Voilà, le petit rayon de soleil de la journée.
Oui, c'était inattendu quand même.
Tout à fait, mais alors ça ne m'étonne pas du tout d'Anne-Gaëlle. Elle est très, comment dire, très expansive,
très chaleureuse, très sympathique.
Elle est... Je sais pas comment dire, elle est énorme, vraiment. Regardez son compte sur Instagram, elle met des vidéos. Elle a d'ailleurs eu la surprise de voir son livre défiler sur les écrans communicants à une gare à Paris, j'ai oublié laquelle. Elle était folle de joie.
Oui, j'ai regardé son compte Instagram, on la voit, elle passe devant.
Tout à fait.
Elle fait des allers-retours tellement elle est joyeuse.
Devant, tout à fait, c'est oui. Ça. C'est ça.
Oui, je crois qu'Anne-Gaëlle Huon, c'est la joie incarnée. Alors, d'ailleurs, elle est l'auteur de romans feel good en bon français, et elle vient de publier Même les méchants rêvent d'amour. Alors, c'est un roman dont les héroïnes sont entre autres des vieilles dames. C'est le cas aussi d'ailleurs dans certains de ses autres romans. Elle aime tellement les vieilles dames qu'elle a ouvert un autre compte Instagram que le sien, que vous connaissez, je pense, Cécile, qui s'appelle Parole de grand-mère. C'est quand même un petit peu inhabituel. Alors, j'ai donc demandé à Anne-Gaëlle Huon pourquoi elle mettait des vieilles dames un peu partout dans ses romans et comment lui était venue cette idée de compte Instagram.
Bonjour, alors en effet, moi j'aime beaucoup les vieilles dames, je trouve qu'elles font des héroïnes formidables. J'avoue que je n'avais pas forcément au début l'intention vraiment d'en saupoudrer comme ça dans tous mes romans. La vérité c'est que quand j'écris, je trouve que ces personnages-là rapidement prennent beaucoup de place sous ma plume. C'est des vieilles dames qui sont très incarnées, c'est-à-dire que quand je les entends parler, je trouve que c'est les plus intéressantes, parfois les plus drôles, et puis c'est à elles que j'ai envie de faire vivre les aventures les plus extraordinaires. Après, c'est vrai que moi j'étais très proche de ma grand-mère, Janine, dont je me suis inspirée pour mon dernier roman, Même les méchants rêves d'amour. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie et du carnet qu'elle m'a confié avant de perdre la mémoire. Donc sans doute d'avoir été très proche d'elle étant enfant et d'avoir vécu des moments si joyeux en son compagnie font que c'est plus facile aujourd'hui pour moi peut-être de les restituer. Et Parole de grand-mère, c'est un compte Instagram que j'ai lancé sous l'impulsion des lecteurs hein, qui me parlaient beaucoup de leur grand-mère. Je leur demandais à chaque fois quelle est cette petite phrase qui représente si bien votre grand-mère. Et je me suis mise à les compiler, donc des petites phrases un peu rigolotes, parfois coquines, parfois émouvantes. Et maintenant, on est une communauté là, de plus de 25 000 personnes en quelques mois. Donc il y a un vrai engouement pour les jeunes générations, pour la transmission. Et c'est ça qui est joli, c'est que les réseaux sociaux deviennent un lieu de communion intergénérationnel.
Oui, parce qu'à la lecture, on ressent fortement qu'Anne-Gaëlle Huon a une vision très humaine de ses personnages. Hein. Je crois que ce qu'elle vient de dire le montre assez clairement, y compris de ceux qu'on appelle les méchants, les vilains. C'est volontaire, comme elle me l'a expliqué ensuite. Elle a même osé mettre en scène un personnage de vieille dame plutôt, on va dire, méchante, ce qui est plutôt iconoclaste, surtout dans un roman catégorisé feel good. Et je lui ai demandé si elle n'avait pas peur de choquer son public avec ce personnage dont je tairai le nom pour ne pas... Alors, je vais utiliser « divulgâcher », ce nouveau mot québécois que j'ai appris récemment, pour ne pas divulgâcher le roman auprès des lecteurs. Donc, on écoute Anne-Gaëlle Huon nous dire si, oui ou non, une vieille dame méchante, ça choque les lecteurs de romans feel good.
Alors, non. Bon, alors déjà, moi, je pense pas que les lecteurs puissent être choqués. Je crois qu'on les embarque assez bien et ils sont suffisamment intelligents pour comprendre les messages. En l'occurrence, ce personnage dont vous parlez, dont je dirais pas le nom, une vieille dame dont on comprend assez rapidement que les actes méchants qu'elle a pu commettre, et c'est lié au titre hein, d'ailleurs, sont explicables par l'absence d'amour qu'elle a pas eu quand elle était enfant. Et ça, c'est une vérité qui m'est très très chère. C'est presque un principe dans ma vie. Je suis très attachée à l'empathie. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on résoudra beaucoup de conflits dans le monde, en se disant que, bah oui, même les méchants rêvent d'amour, qui est une façon de dire que même les plus odieux personnages, toujours et surtout eux, sont des gens qui cherchent à être aimés avant tout. Et les vieilles dames n'échappent pas à la règle, c'est-à-dire qu'il y a dans l'eau aussi, et c'est vrai, des enfants qui ont été chagrinés et qui gardent ces traces-là de leur enfance jusqu'à leur mort.
Donc voilà, on a la réponse, parce qu'au fil des pages, on sent une véritable empathie, une vraie proximité avec ces personnages. Il faut dire que Anne-Gaëlle Luon considère aussi que l'auteur a un vrai rôle à jouer dans la société. C'est un rôle qui lui tient d'ailleurs personnellement à cœur et elle l'affirme hein, avec force, on l'écoute.
Pour une raison que je n'explique pas complètement, je crois comme beaucoup d'autres auteurs que moi j'ai à cœur de transmettre. Pas des grands messages qui illuminent le monde et qui vous font croire beaucoup plus intelligent qu'on est. Plutôt cette idée de transmettre des petits destins comme ça, des petites personnalités, de mettre dans la lumière des gens ordinaires qui finalement, quand on regarde bien, ont des vies extraordinaires. J'ai à cœur que ces personnes-là ne tombent pas dans l'oubli et une génération entière elle-même qu'elle ne tombe pas non plus dans l'oubli. Et au-delà de ça, j'ai aussi à cœur que toute cette richesse qui fait la France, moi j'aime beaucoup la France, j'aime son patrimoine, j'aime ses saveurs, j'aime ses paysages et j'aime beaucoup son terroir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans mes romans. C'est pas des romans citadins, c'est des romans qui se passent dans des belles régions de France assez contrastées.
Comme à Nevers, par exemple.
Je pourrais faire un roman ici, c'est une bonne idée. Les derniers qui se passent dans un petit village de Provence, voilà, donnent à voir aussi les traditions, les saveurs et puis le savoir-faire, hein, vraiment, des trufficulteurs, de tous ceux qui sont autour d'eux. Donc, tout ça participe d'un même mouvement qui consiste à dire que la littérature permet de garder une trace des choses. Faire des listes aussi en fait partie. Donc il y a vraiment ce truc-là un petit peu hein, qui m'obsède de comment retenir tout ça pour pas que ça s'évapore parce que c'est tellement joli.
Donc voilà une quand même, on sent une affirmation dans son propos et peut-être un jour on aura un roman qui se passera dans la campagne nivernaise. Pourquoi pas ? Tout peut arriver.
On peut lui demander. Hein.
Oui. Alors, c'était une très belle rencontre. Hein. Moi, j'ai été ravie de croiser sa route. Cécile, c'est vous qui avez tout organisé de la rencontre. Peut-être que vous voulez ajouter...
Alors, presque tout organisé, parce que quand même, ça a débuté avec Sylvie. C'est Sylvie qui a commencé...
Donc, Sylvie, votre collègue.
Voilà, ma collègue libraire à la FNAC, qui a commencé à entretenir effectivement une relation avec Anne-Gaëlle, qui a lu tous ses livres un par un, au fur et à mesure, oui, oui.
Une groupie donc comme vous Dominique mais pour pour un autre artiste
on peut dire ça comme ça et puis voilà à partir de là effectivement on s'est dit non mais là c'est pas possible faut qu'elle vienne à Nevers et puis effectivement elle était vraiment ravie de venir on en a parlé pendant je ne sais pas combien de temps au départ on n'était pas sûr est-ce que le livre va sortir à temps est-ce qu'on décale la date est-ce qu'on le fait avant après et puis en fait ça s'est super bien passé.
Oui. Moi, j'ai vu quand même des gens qui étaient venus de Bourges spécialement pour la voir. Je pense qu'elle a un public de fans qui la suit aussi de ville en ville. mais il n'y a pas qu'Anne-Gaëlle Luon dans votre actualité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que la FNAC nous réserve ? Je crois que vous touchez un petit peu à tout. Au mois de juin, il y a pas mal de propositions intéressantes.
Alors oui, on va avoir du polar, BD, roman, un peu de tout. Ça commence donc le 8 juin avec Patrick Guichet, qui vient dédicacer donc son nouveau livre à partir de 14h.
Donc c'est du polar. Hein.
C'est, on va dire, du polar pédagogie.
Du polar pédagogie, tiens, c'est intéressant ça.
C'est assez spécial, il n'avait pas encore fait ça. Ce sont voilà, des lycéens qui arrivent pour découvrir leur lycée, et puis là ils se rendent compte qu'en fait c'est le monde à l'envers. Ça a pas de sens, c'est pas du tout pédagogique finalement.
D'accord.
Donc on se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce qui se passe, si c'est normal, et puis.
Ah mais c'est un peu intriguant là ce que vous nous dites.
C'est le but.
Oui. Donc ça c'est pour la partie polar.
Voilà. On a après donc le 15 juin, on fait un combo. On appelle ça un combo. On a
un combo.
Voilà,
comme dans les jeux vidéo.
Voilà. On
D'accord.
va dire ça comme ça.
Alors
ou
c'est
un
quoi,
duo
le combo
si vous voulez.
Ah mais ça marche aussi.
Voilà. On a fait venir donc deux auteurs. Donc en roman Marjorie Levasseur et en BD, on a Christophe Alves dont vous avez parlé la dernière fois, la dernière émission. Donc Marjorie Levasseur, elle a écrit énormément de romans. On les présentera tous ce jour-là, il n'y a pas de souci. Donc à partir de 14h et à partir de 15h, donc le 15 juin toujours, donc Christophe Alves qui a dessiné la nouvelle BD Le Franc, donc La Lune Rouge, oui, sera présent également.
Oui, qui d'ailleurs, hein, la Lune Rouge. Hein.
Oui, ça vient de sortir, donc pour l'instant, on n'a aucun souci à ce niveau-là. donc, il sera là également pour voilà, dédicacer les BD et puis peut-être vous faire un petit dessin, on ne sait jamais.
Oh, bah oui. Pendant qu'on est là.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de lien entre deux, c'est juste les hasards du calendrier.
C'est pour que chacun puisse y trouver son compte. On arrive presque aux vacances, donc on va vouloir décompresser, partir à la plage. Il faut que chacun puisse trouver ce qui lui plaît.
Donc, après le feel good, la BD, le roman, c'est voilà. Bien. Mais il va y avoir des sacs de plage bien remplis. Hein.
Ah bah, faut pas hésiter, faut pas hésiter du tout.
Et c'est l'idéal d'ailleurs, hein. La lecture sur la plage, c'est pas mal. Hein.
Bah oui, oui, oui.
Bon, il y a un peu de sable, mais on lui pardonne. Et puis, vous avez aussi... alors, ça n'a rien à voir, ça n'est ni de la BD, ça n'est pas du roman, ni du polar. C'est une petite surprise encore pour le mois de juin.
Voilà, c'est encore autre chose, effectivement. Donc, on travaille beaucoup avec La Camosine, donc un éditeur local, qui vient de publier, donc il publie régulièrement, oui. Des annales des pays nivernais. Et donc là, il vient publier le numéro 175. Voilà, donc c'est quand même
avec
un
bon chiffre. Avec un titre étonnant.
Voilà, le titre est de... Alors, je sais pas comment ça se prononce, je vais le prononcer à l'anglaise. De Buna à Bona. Alors, Buna, c'est une ville, en fait, en Australie. Et Bona, bon, ben, c'est ici.
Voilà.
Voilà, voilà donc c'est une annale qui a été écrite par Dominique Bégaud, qui a retrouvé, en fait, un avion australien de la Deuxième Guerre, qui a été retrouvé, donc, à Bona. Et donc, bon, ils ont fait une stèle là où ils l'ont trouvé.
Oui, c'est inattendu. Hein.
Ah, tout à fait. L'auteur s'est beaucoup documenté. Donc, ses conclusions sont dans cette annale de Buna à Bona.
Avec cette coïncidence de nom aurait enchanté les surréalistes. De Buna à Bona, c'est quand même c'est extraordinaire.
Comme dit l'auteur, le titre, il était tout trouvé, en fait.
Oui.
Donc, comme je le disais, donc c'était un avion qui a été retrouvé, un avion de 1944. Donc, en fait, l'auteur va venir donc à la FNAC. Ça sera une dédicace donc de ce livre avec une exposition. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il viendra avec les pièces de l'avion.
Et oui.
Avec les uniformes australiens.
Ça, c'est
il
fort.
Il viendra vraiment avec tout l'attirail du collectionneur. Vraiment, son but à lui.
Il ne faut pas rater ça, là.
Tout à fait. Son but, effectivement, c'est de rendre hommage, en fait, à ces Australiens qui sont venus nous aider donc, quand on avait besoin et qui sont morts pour nous, finalement.
Oui.
Voilà, donc il a fait beaucoup de recherches sur eux, sur l'avion, sur comment ça s'est passé, comment est-ce que le crash a eu lieu, parce que finalement, ils sont crashés à Bona. Donc,
oui, donc on apprend quand même tous les dessous de l'histoire.
Ah, mais tout, de A à Z. Vraiment, c'est une exposition dédicace et c'est vraiment tenu par un passionné. Donc vraiment, n'hésitez
pas. C'est extraordinaire parce que ce genre d'événement, on le trouverait dans un roman, on se dirait, oui, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Mais c'est dans la vraie vie qui, comme d'habitude, nous surprend plus que la fiction. Non, c'est quand même c'est assez extraordinaire. Donc, bah, écoutez, moi, j'invite les auditeurs à aller voir aussi bien les uniformes que la publication, les annales des pays nivernais, pour en apprendre plus sur ce mystère. Buna à Bona, moi non plus je ne sais pas comment ça se prononce, mais je prononce comme vous, et donc c'est quand même assez étonnant. Hein.
Voilà, donc le 22 juin, toute la journée, de 10h à 19h, il sera là.
Donc, à ne pas rater, entre une petite dédicace de Christophe Alves, avec un petit dessin, et le polar de Patrick Guichet, le mois de juin de la FNAC est très riche, je crois. Alors, il y avait une très riche actualité aussi aussi près, puisque depuis la rénovation de Jean de la Lune, les invitations d'auteurs se sont enchaînées. Ils ont reçu Jean-Michel Roudier, qui d'ailleurs viendra dans les Voies du Livre le mois prochain, Béatrice Rodriguez, et il y a eu samedi dernier, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, Benjamin Lacombe qui a créé l'événement. C'était l'émeute, hein. Incroyable, un monde fou, il a fallu rester zen, et en plus le Saint-Sébastien s'est transformé en atelier, donc c'était magique, c'est comme dans Poudlard, il y a des mutations. Voilà, donc malheureusement Éline ne peut pas nous en dire quelques mots, et il y aura aussi près, une très belle surprise. Le 1er juin, il va se passer des choses. Alors, accrochez-vous, parce que alors ça, vous n'avez jamais vu ça. Enfin, si, en fait. Mais moi, je n'avais jamais vu ça. La soirée Poésie Sangria. Alors, Dominique Sierra, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans cette soirée Poésie Sangria au Cyprès ?
Oh, ça va être très sage, hein. Ne vous inquiétez pas.
Vous nous mettez l'eau à la bouche.
Eh bien, c'est un concept, comme on dit.
Voilà, c'est un concept poésie très
sangria,
innovant.
Parce que la poésie se marie très bien avec l'art, avec la musique, avec la peinture, mais aussi... avec la sangria.
Avec la sangria, on n'y pensait pas.
Et ses couleurs multiples.
Voilà.
Donc, je fais moi-même la sangria. Et puis,
ah oui,
c'est une sangria faite maison, s'il vous plaît.
Oui, et puis alors par vous, je pense que ça va être de la sangria de haut niveau.
Non, je ne sais pas, mais il paraît qu'elle est assez bonne. Je ne vais pas me vanter quand même.
Et
elle sera accompagnée, évidemment, pour éponger l'alcool. Elle sera accompagnée de petites choses, des mésées, des quiches, enfin, je ne sais pas encore.
Oui, ça va être...
Selon ce que j'aurai envie de faire.
Le goût du jour. Mais voilà. Je crois que vous allez la faire précéder de quelque chose d'un petit peu particulier.
C'est-à-dire que là, elle se fera en deux parties, si je peux dire comme ça. On va d'abord faire un hommage à Julien Bosque, dont j'ai publié un livre en janvier, qui s'appelle « Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa ». Et Julien Bosque, il se trouve que malheureusement, il est mort juste avant, c'est-à-dire en septembre dernier. Il est mort brutalement. Et ça a été quand même un gros choc. On avait terminé les corrections du livre, donc je me suis dit que j'allais quand même le publier. On avait même décidé de la date. J'ai demandé bien sûr à sa famille l'autorisation, tout le monde était d'accord, donc j'ai publié le livre. Et comme malheureusement il ne pouvait pas venir pour faire une lecture, eh bien j'ai pensé que ça serait bien de faire un hommage, c'est-à-dire de faire une petite, pas très longue, mais une lecture quand même des textes de quelques poèmes de Julien. Donc on commencera par cette lecture, qui sera faite par Sabine Péglion, dont j'ai publié le dernier recueil paru à la tête à l'envers, Ces mots si clairsemés. Et Sabine va lire aussi, elle lit beaucoup. Elle
adore. Je précise juste pour les auditeurs, si clairsemés, ça s'écrit en deux mots dans le...
Ça a été l'occasion d'une petite, pas dispute, on va dire une disputation entre nous deux. C'est-à-dire que moi, j'écrivais si clairsemé en un seul mot. Et elle vous préférait qu'on sépare. Je lui disais que les lecteurs n'étaient pas bêtes, qu'on n'avait pas besoin de mettre en scène, dans l'écriture même, le jeu de mots. Alors, j'ai tergiversé, j'ai mis le jeu de mots sur la couverture, d'autant plus qu'il y avait un problème de place.
Ah, bah alors.
Et... le titre à l'intérieur est en un seul mot, et à la fin, le dernier poème, j'ai laissé le clair semé, qui termine le recueil, parce que je trouvais que là, justement, il prenait sens. Et il permettait au lecteur de revisiter le recueil en entier.
Et bien donc, désormais, le titre est en deux mots. Donc, une très belle soirée en perspective.
Oui,
donc,
parce que Sabine Péglion a une très très belle... voix très harmonieuse, comme l'est sa poésie. C'est une poésie extrêmement musicale.
Oui, j'ai eu l'occasion de l'entendre lire, et effectivement, elle a la voix qui correspond à la musicalité de son texte. Vous aviez d'autres actualités à mentionner ?
Alors, oui, la semaine suivante, du 5 au 9, au 9 juin, on a le marché de la poésie à Paris, place Saint-Sulpice. C'est un moment pour moi incontournable, j'adore ce marché. C'est un véritable marché.
Oui.
Sauf que ce ne sont pas des légumes et des livres qu'on vend. Il y a énormément de monde venu de toute la France. En plus, il fait beau la semaine prochaine.
Que demande le peuple? Et d'ailleurs, de toute la France, mais aussi de la Nièvre, puisqu'il y aura le chemin de fer, les éditions du chemin de fer qui seront présentes.
Et Potentille.
Et Potentille, tout à fait,
sûr.
Qui seront présentes.
Et d'autres éditeurs de Bourgogne.
Voilà, donc un lieu où tout le monde se retrouve, finalement.
Oui, tout le monde se retrouve, c'est un moment extrêmement joyeux. Il y a vraiment de la joie dans ce marché. Tout le monde se rend compte, tout le monde discute. Ce sont 5 jours vraiment de plaisir intense.
Et vous pouvez redire où ça se trouve ?
À Place Saint-Sulpice, à Paris.
Voilà, donc pour les Parisiens, profitez-en à ne pas manquer. Je voudrais juste ajouter quelques petites actualités par ailleurs. Enfin, petites, non, pas petites d'ailleurs en fait, puisque le 1er juin, toujours le 1er juin, à 16h, à la Charité... sur Loire, le festival Tandem proposera un chapitre assez exceptionnel, puisque Thomas Claire, qui est écrivain, et Élise Ladoué, qui est chorégraphe et danseuse, proposeront dans la salle capitulaire une lecture dansée. Alors moi, j'adore les lectures dansées. Ce sera donc présenté dans le cadre du festival aux quatre coins du mot. Donc, à ne pas rater, hein, parce que ça, on n'en voit pas tous les jours. Il y a d'ailleurs d'autres pépites vraiment intéressantes durant ce festival. Bon, je ne peux pas tout citer ici, mais je vous invite à consulter le programme des quatre coins du mot sur le site citedumot.fr. Et puis, je voudrais aussi rappeler, pour ceux qui auraient manqué l'information, qu'Arnaud Catherine, qui est le conseiller littéraire du Festival Tandem, qui est aussi écrivain, était à la Grande Librairie, cette émission donc qui passe le mercredi soir, le 15 mai dernier. Alors si vous l'avez raté, moi je vous invite à aller revoir son passage sur YouTube. Il y parle de son recueil de nouvelles, qui s'intitule « J'entends des regards que vous croyez muets », qui est donc bien sûr en vente dans toutes les bonnes librairies. C'est très intéressant de voir sa nouvelle perspective. Donc il écrit des nouvelles dont il parle comme de vol de vie, c'est-à-dire qu'il imagine les vies des gens qu'il voit. Donc c'est assez original comme perspective. Il y aura aussi une autre dédicace ce même 1er juin à l'espace culturel Leclerc. L'écrivain Emmanuel Osomba viendra dédicacer son recueil paru aux éditions Vérone et qui s'intitule « Non ». Et on parlait tout à l'heure de Paris, de la place Saint-Sulpice. Eh bien, j'invite aussi les personnes qui sont de passage à Paris, par exemple au moment de ce marché de la poésie, à faire un petit détour et à aller visiter la très très belle exposition de Pascale Emery, qui est donc une graveuse qu'on va dire parisiano-nivernaise, puisqu'elle a son atelier dans la Nièvre, et qui exposera du 4 au 25 juin au couvent des Dominicains, donc dans le 8e, rue du Faubourg Saint-Honoré. L'exposition s'appelle « Silence sur la ville ». Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le travail de Pascale Emery.
Un petit peu, c'est très beau.
Oui, elle a une vision de la ville qui est très originale. Donc, c'est de la gravure, de l'estampe. Mmh. On est vraiment dans, en plus, de magnifiques aplats, une vision assez à la fois forte et détaillée. Donc, un très beau programme gravé à découvrir le mois prochain. Et le vernissage aura lieu le jeudi 6 juin. Voilà, mais revenons maintenant à la Grèce, puisque nous allons écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une chanson grecque de Maria Farandori. C'est un chant qui est tiré d'un poème de Séphéris qui s'appelle Le reniement, le poème. La chanson, oui, elle, a repris en titre les premiers mots du poème, à savoir Stopere Galis, c'est-à-dire la plage.
Avec l'accent.
L'accent international.
Alors.
Et c'est un chant que les Grecs aiment énormément parce que il est considéré presque comme un second chant national. Parce que quand Séphéris est mort, c'était l'époque des colonels. Séphéris, oui, avait écrit un texte extrêmement bien frappé sur les colonels.
On peut lui faire confiance.
Et le poème de Séphéris a été mis en musique par Théodorakis, qui avait été exilé.
Oui.
Il avait été exilé grâce à l'Europe, parce que normalement, il avait été emprisonné, torturé certainement, et donc les Européens se sont mobilisés pour que la junte, là, au pouvoir, le fasse sortir. Mais la junte a continué à interdire ses chants. Et quand le cercueil de Séphéris est arrivé dans les rues d'Athènes, il y avait minimum 30 000 personnes. Ben, ça a été un raz-de-marée extraordinaire. Et tous les Grecs ont entonné ce chant. Et ça a été un moment fabuleux.
Fabuleux. Ça devait être extrêmement émouvant et fort à la fois.
Extrêmement émouvant. C'est une chanson qui est très, très belle. Vraiment très, très belle. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion, puisque j'ai publié Séphéris, un livre des poèmes de Séphéris, j'ai eu l'occasion de le présenter. Et de présenter un film que j'ai fait avec Alexis Réjas, sur la vie de Séphéris. Et on a bien entendu parlé de cet enterrement. Et on avait mis cette chanson en.
Oui, bien sûr, c'était une incontournable.
Et dans la salle de la librairie où tous les Grecs, beaucoup de Grecs étaient là, ils se sont tous mis à chanter ce chant.
Ça devait être un moment.
C'était extrêmement émouvant.
Oui.
Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson.
Alors nous allons, merci de nous avoir rappelé le contexte de la création de cette chanson et l'importance qu'elle peut avoir pour les Grecs. On va l'écouter donc en gardant ces éléments à l'esprit. « Oui, en effet, il était nécessaire de contextualiser la chanson parce que, bon, moi, je ne parle pas le grec moderne, donc je ne comprends pas forcément ce qui s'y dit. Et une petite explication de texte était indispensable. Alors, Dominique Sierra, vous avez fondé les éditions La Tête à l'envers en 2012. Vous habitez en pleine campagne hivernaise, pas très loin de Saint-Sauge, entouré de chèvres, des chèvres peut-être grecques pour certaines, de vaches, des ânes, avec une vue magnifique non pas sur les collines d'Athènes, mais sur le Morvan. Mm-hmm. Enfin, peut-être que ça vous rappelle les collines d'Athènes, à Limette, et peut-être pour l'inspiration. Donc vous êtes une jeune éditrice depuis 2012, et vous avez déjà un très beau catalogue à votre actif, avec des poètes de renommée internationale. On a évoqué Séphéris, mais aussi d'autres un peu moins connus, comme Christian Ollier ou Sabine Péglion, mais qui le seront peut-être ultérieurement. Alors, on se dit que ça n'est pas la renommée qui vous fait les choisir, mais justement, comment est-ce que vous décidez de publier tel texte et de refuser tel autre? Quelle est votre ligne éditoriale? Alors, les auditeurs ne voient pas, mais elle sourit. Donc, je sens que j'ai dit une grossièreté.
Non, j'ai dit d'abord ce que j'aime.
Oui.
C'est-à-dire que je n'ai pas de raison financière ou autre pour éditer un texte. Ce qui fait que La Tête à l'envers n'est pas toujours très riche, pour tout vous dire.
Donc c'est la ligne éditoriale n'est pas l'argent. On voit.
On pourrait cela dit penser que justement j'en ai pas de ligne éditoriale parce qu'il y a une grande diversité et des couvertures et des écritures.
Oui, c'est la première chose qui frappe quand on voit l'ensemble.
Et justement, là, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un salon du livre et un homme passe devant mon stand et voit tous les livres, les uns à côté des autres. Il me dit « Oh, ils sont très beaux, vos livres. » Je vous dis ça pour que vous le sachiez. C'est important que vous sachiez qu'ils sont beaux.
Ça fait toujours plaisir.
J'étais évidemment charmée par cet homme.
Bien sûr. Voilà, on sait comment séduire Dominique Sierra.
Exactement.
Il faut lui dire que ses couvertures sont réussies.
Il ajoute, et c'est là où ça rejoint ce que je voulais vous dire, il ajoute, les couvertures sont très diverses, mais il y a une ligne graphique. Alors là, il m'a un peu scotché, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je me suis dit que c'était très intéressant d'entendre, parce que je crois que
c'était un graphiste ou peut-être
J'ai supposé. Je lui ai pas demandé. Mais il a eu vraiment une réflexion de professionnel.
Oui, il arrive à voir la ligne commune derrière l'apparente diversité.
Voilà. Et c'est tout à fait ce que je pense des livres que je publie et des écritures. C'est-à-dire que les écritures sont extrêmement diverses parce que j'aime la diversité des écritures. Quand je regarde les livres à la fin de la journée ou quand j'ai l'occasion que je les ai en tête, je vois comme une fresque.
Ah oui.
Oui, une fresque de, comment vous dire, extrêmement diverse, très coloriée, faite de toutes les tonalités de chacun des livres ou des écritures. Il y a des écritures tristes, il y a des écritures gaies, des écritures rouges, des écritures...
Ça crée en soi un tableau particulier.
Pour moi, je le vois comme ça. Et ça, c'est un de mes grands plaisirs, effectivement, quand je pense à cette fresque.
Mais on voit d'ailleurs que vous accordez une importance très grande au caractère matériel du livre, le papier, la couverture et pas seulement l'illustration.
Tout à fait.
Pour vous, pourquoi est-ce que c'est si important ?
Parce que la poésie, c'est de la beauté. Je sais que ce mot est un peu, à l'heure actuelle, on l'aime pas trop.
Enfin,
il y a eu une époque où on l'aimait pas trop, ce mot. On se targuait d'être au-delà de ça.
Ah, alors, restons dans la beauté, n'allons pas au-delà. Qu'est-ce que c'est que la beauté dans la poésie?
Écoutez, la beauté, pour moi, elle est chez les poètes que j'aime. En tout cas, je parle de ce que j'aime. Ce que je vais dire, je dis ça parce qu'il y a une chose qui m'excède, c'est quand les gens disent la poésie, c'est ceci, la poésie, c'est cela. Je ne crois pas que on puisse parler comme ça.
Ça vous paraît trop catégorique ?
Oui.
Trop restrictif.
Oui, parce qu'il y a une diversité. D'ailleurs, je crois que c'est... j'ai plus son nom en tête, bien sûr, comme toujours.
C'est toujours
un grand poète qui disait « la poésie, je ne sais pas ce que c'est ».
Il faut être un très grand poète pour pouvoir s'en rendre compte.
Oui, c'est un grand poète qui disait ça. Et quand le nom me reviendra, je vous le dirai.
Et donc, pour vous, c'est important, cette beauté?
La beauté, elle vient pour moi, en poésie, elle vient de l'adéquation totale qu'il y a entre une écriture et ce que l'auteur cherche à dire. Et qu'il ne sait pas forcément, j'ajoute ça.
C'est-à-dire qu'il peut dire des choses sans savoir...
Oui, et je vais compléter si j'ai un peu de temps. J'ai une poète, Claudine Bowie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Naître, c'est longtemps ». Et elle a écrit une ouverture à son recueil de poésie. Et dans cette ouverture, elle dit quelque chose qui m'a énormément touchée, parce que ça rejoignait quelque chose que je pensais sans savoir le dire. Elle dit « Nous sommes plus grands que nous ». Et elle ajoute « Plus grands que nos petitesses, notre conscient ». Elle dit « C'est parce qu'il y a au fond de chacun de nous un réservoir immense et inépuisable ». Qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de nos parents, grands-parents, des gens qui nous ont précédés. Et ce réservoir, il est fait de mots, de sensations, de sentiments.
Donc c'est un réservoir
de langage.
Qui n'est pas seulement, dans lequel on ne met pas que nous-mêmes,
non,
si je vous
suis
bien.
Pas nous-mêmes, consciemment. Elle dit, on est autre chose que ça. On est ça, bien sûr. Mais on est aussi bien autre chose. Les psys vous parleraient d'inconscient, je suppose.
Donc on est plus que la somme de nos parties.
Voilà, exactement. Il y a Stephenson qui disait, je ne sais pas si vous avez lu Stephenson.
Si, grâce à
vous.
Ce
n'est pas un poète. Ah bon,
j'ai découvert Stephenson en lisant la page d'accueil de votre
site.
Ah
oui.
C'est une parenthèse. Je vous en prie. Que
c'est un grand écrivain islandais. Et dans son livre « Entre terre et ciel », que vous connaissez peut-être, oui, il dit « Qui est donc assis là, au tréfonds de notre âme, à diriger les mots ?» Eh bien, j'ai fait le lien, et je pense que c'est cette personne qui est assise là, qui est ce dont parle Claudine Bowie. C'est-à-dire tout ce dont on est issu.
Le réservoir.
Le réservoir. Et de même que, sur le plan personnel, on ne s'y tient pas seulement de soi-même. C'était Chateaubriand qui disait ça. Je voudrais ne me tenir que de moi-même.
Oui, mais c'est un peu difficile,
en effet.
Un peu
orgueilleux.
Oui, voilà. Je crois que...
De même sur le plan social... Une société, elle vient des sociétés qui l'ont précédée. Il n'y a pas de découverte au sens strict du terme. Toute découverte a été précédée, en fait.
Oui, c'est un peu comme cette idée de dire qu'on est sur des épaules de géants,
voilà.
Etc.
Ouais, on n'est pas, rien n'est créé comme ça, ex nihilis. Et pour moi, c'est le poète tel que je l'aime, hein, je précise toujours, mm-hmm. C'est celui qui va aller chercher au fond de lui, qui va creuser, pour essayer de dire... cette chose qu'il ne connaît pas forcément. Alors il va essayer de dire d'abord peut-être quelquefois uniquement comme ça, ce qu'il sent, et puis peu à peu, quand il creuse, il y a des mots, une sensation, un souvenir qui vont surgir, et il va y aller. Il n'a pas peur, lui. Alors que nous, quand
nous,
quelque
on reste
chose...
en surface.
Oui, parce qu'on a peur, je crois. On se dit qu'est-ce que c'est bizarre ce truc-là. Et puis on le gomme tout de suite.
Quand on avait préparé l'émission, vous m'avez dit « La beauté, donc la beauté de la poésie, aide à vivre, elle m'ouvre le cœur ». Est-ce que vous voyez un rôle à la poésie dans dans la beauté, dans la société contemporaine ?
Alors, je ne vois pas de rôle. Parce que là encore, il y a des dictates qui m'horrifient. Non, je ne vois pas de rôle, mais par contre, je parle de moi. Et puis je pense qu'effectivement la poésie part ce qu'elle va chercher ailleurs, et comme elle est, en fait la voix du poète est universelle, parce que chacun est une parcelle d'humanité,
une parcelle de ce fameux réservoir.
Voilà.
Finalement,
il y a le réservoir personnel qui lui aussi fait partie du réservoir mondial. Et donc je pense que c'est Cécile Holbein qui dit, la poète qui dit elle dit la poésie nous grandit, et je crois que c'est au sens de elle nous ouvre des portes inexploré chez nous. Et donc, pour moi, à ce moment-là, j'ai un sentiment de beauté.
Alors, je voudrais vous poser aussi une question un petit peu plus personnelle pour revenir aux sources. Quel texte vous a fait aimer la poésie ?
Ah, bon, j'ai eu deux illuminations dans ma vie. La première, c'est celle de Séphéris. C'était les années 70, quand les Grecs étaient exilés, beaucoup, il y avait une grande diaspora grecque à Paris. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Séphéris, pas la connaissance intime, hein, la connaissance de ses textes, et ça a été effectivement pour moi une révélation. Bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis beaucoup plus tard, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu dans une revue qui s'appelle Sigilla, qui est une revue pluridisciplinaire,
oui. Mmh.
Franco-portugaise. J'ai lu un poème de Bernard Sezet, et ça m'a ébloui, parce que là, j'ai senti, pareil, comme avec Séphéris, cette espèce de sentiment de beauté qui nous dépasse, qui fait que nous sommes plus grands. Et j'ai eu la chance de pouvoir le connaître et de lui demander s'il acceptait de me donner des livres. Voilà, c'était les deux rencontres très fortes pour moi. Et j'en profite parce que Bernard Sezet est maintenant un vieux monsieur, et j'en profite pour lui rendre hommage.
Alors cet hommage est rendu. Merci beaucoup Dominique. Alors vous nous avez réservé une petite surprise pour la fin, puisque vous proposez donc une lecture de Sabine Péglion le 1er juin. Vous nous avez proposé maintenant un extrait de son dernier recueil. Alors Hélène Séjot qui devait le lire n'étant pas là, je vais essayer de vous faire partager les émotions que j'ai moi-même reçues en lisant ce texte. L'étranger. Pourtant, il fut ce voyageur ailé. Il déployait ses mains aux longues envolées. Il aimait, je le sais, les valises légères, celles qu'on emplissait du parfum des étés, d'épices et de poussière, la rumeur de la mer, les galets emportés. Il allait, s'avançant, impatient de dire. Des ombres poursuivaient, sur les rives désertes, sa course singulière. Le soir l'accompagnait, là où le vent s'étire. Il avançait, confiant, des chemins solitaires. Les herbes folles suivaient son ombre. Voyageur d'air et de songes clairs, regard au loin porté, du doute délivré. Il déposait parfois un large coin de ciel, bleu, linge joyeux, dont il faisait sa terre, ignorant les frontières. Mais, au terme de l'errance, entre vide et absence, les ailes de sa voix, sur lui, se sont brisées. Et le silence qui suit est encore du Sabine Péglion. On a envie de rester dans cette ambiance poétique. C'est très émouvant et très prenant. Et nous allons donc terminer sur cette émotion textuelle. Merci beaucoup, Dominique Sierra, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et j'invite tous les éditeurs, le 1er juin, aussi près à 18h, à venir écouter de la poésie en buvant de la sangria ou à déguster de la sangria en écoutant de la poésie, comme on voudra. Et les Voix du Livre vous donnent rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.